Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, la traduction ou l'art de faire avec les différences. Il n'y a pas une, mais des langues difficiles à dénombrer avec précision. Dès lors, comment construire un monde commun, un monde où chacun soit capable de parler à n'importe qui, et, en retour, de le comprendre. On voit bien qu'il y a deux écueils. Le premier, c'est d'être tenté de parler un globiche pauvre, sans âme et sans génie, une sorte de désespéranto nous poussant vers une culture plate et tristement homogène. Le second écueil, c'est au contraire la juxtaposition de communautés linguistiques étanches, repliées dans leur surdité et figées dans leur identité. Comment éviter ces deux pièges? En comprenant sans doute que la diversité des langues est une richesse et une chance, à la fois existentielle et intellectuelle. Mais il y a pour cela une condition, traduire, c'est-à-dire savoir faire avec les différences. Mais comment s'y prendre? Pour le savoir, j'ai invité Barbara Cassin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et philologue, directrice de recherche au CNRS. Vous avez même eu la médaille d'or du CNRS en 2018. Vous êtes membre de l'Académie française et auteur d'un livre qui vient de paraître, que vous avez écrit avec Daniel Vosny, qui s'intitule « Les maisons de la sagesse traduire, une nouvelle aventure ». Alors, la traduction, c'est un très vaste sujet, comme vous l'expliquez dans ce livre. Mais je voulais vous faire réagir à une définition qu'on donnait Valérie Larbeau, qui écrit ceci. Tout le travail de la traduction est une pesée de mots. Dans l'un des plateaux, nous déposons l'un après l'autre les mots de l'auteur. Et dans l'autre, nous essayons tour à tour un nombre indéterminé de mots appartenant à la langue dans laquelle nous traduisons cet auteur. Et nous attendons l'instant où les deux plateaux seront en équilibre. Est-ce que c'est ça la traduction, une affaire d'équilibre, de pesée, juste ?
C'est une affaire d'invention. La pesée, ça a l'air de dire que les choses sont déjà là, de part et d'autre. Or, les choses s'inventent. Et même la langue de départ, celle qu'on connaît, celle que l'auteur a écrite, elle se réinvente avec la traduction. C'était Borges qui disait, l'original essaie de ressembler à la traduction. Mais ça n'est pas faux. C'est très très intéressant de voir comment tout ça bouge ensemble. Et moi, cette définition n'est pas fausse, elle est, je m'excuse auprès de Valérie Larbeau, qui est un grand esprit, mais elle est quand même assez banale. C'est pas seulement les mots qu'on traduit, c'est évidemment la syntaxe, c'est évidemment les sons, c'est évidemment le discours en général, les textes. Bon, donc quelle est l'unité qu'on choisit pour traduire, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que c'est plus intéressant quand ça s'équilibre pas vraiment. C'est-à-dire que c'est quand c'est difficile, quand on n'arrive pas à trouver la juste pesée, qu'on commence à apprendre quelque chose sur sa langue et sur celle de l'autre.
C'est vrai, on a gagné quelque chose peut-être, et on a peut-être aussi perdu quelque chose. Il y a une forme d'écart qui se montre.
Je crois que l'écart fait gagner. La perception de l'écart, on commence à comprendre quand on comprend qu'on ne comprend pas. Si on croit qu'on comprend, on comprendra jamais. Mais quand on commence à comprendre qu'on ne comprend peut-être pas tout, et quand on commence à réfléchir à ce qu'on ne comprend pas tout à fait, eh bien, à ce moment-là, on comprend pour de bon.
Ça n'a rien à voir, mais je me suis demandé, en vous lisant, Barbara Cassin, l'expression « traduire quelqu'un en justice », que vient faire le verbe « traduire » dans ces expressions ?
Il indique un mouvement, et au fond, c'est ce dont je parle. « Traducere », on conduit à travers ou ailleurs ou vers, bon, donc on conduit quelqu'un vers la justice. Et il a à en répondre. Il a à répondre. Ben, au fond, la traduction, c'est une double réponse.
Alors, dans ce livre qui s'intitule, je le rappelle, « Les maisons de la sagesse, traduire », vous racontez que les maisons de la sagesse, c'est une très vieille histoire.
Ah oui.
Est-ce que vous pouvez la raconter
Oui, c'est une histoire qui a commencé, en fait, il y a un mot arabe que je ne vais pas savoir prononcer, ce sont les Bayt al-Hikma, les maisons de la sagesse, ont commencé, disons la première, c'est à Bagdad en 832, les califes abbassides qui l'ont d'abord promu ou inventé, et le calife Al-Mansour. Et ensuite, elles se sont répandues partout, dans Samarcande, le Caire, Damas, Fès, Kairouan, Cordoue, enfin bon. Et il s'agissait, dans ces maisons de la sagesse, où l'arabe était la langue, disons, des sciences et du travail, de réunir ensemble des savants, des praticiens, toutes les générations, et toutes les langues, et toutes les religions.
Et venant de partout.
Et de communiquer, de faire en sorte que tout cela communique. L'arabe était la langue des sciences alors, et même pour le grec, c'est à travers ces maisons de la sagesse et à travers la traduction arabe qu'on connaît un certain nombre d'œuvres d'Aristote, par exemple. Bon, mais tout cela pour dire que il y avait à la fois de la théorie, de la pratique, toutes les religions et toutes les générations.
Et ça se faisait, pour autant qu'on puisse savoir, de façon harmonieuse.
Oui.
Grâce à la traduction,
Grâce au travail. Grâce au travail commun, ce qui se passait, c'était que les gens se mettaient ensemble pour travailler. Et ça, c'est magnifique.
Que vous essayez de reconstruire à différents endroits de la planète ?
Oui, enfin, j'aimerais beaucoup le reconstruire déjà chez moi.
C'est-à-dire en France ?
En tout petit endroit de la planète, oui. C'est ce qu'on essaye de fabriquer, mais on n'est pas capable de faire des maisons. Donc nous, nos maisons de la sagesse, ce sont des dispositifs. Elles n'ont pas de porte et pas de fenêtre. On n'a pas de caravane. Voilà. Et on n'a pas vraiment de lieu. On a des dispositifs qu'on met en place. Et pour l'instant, on a centré notre travail sur trois types de dispositifs qui tous ont à voir avec, au fond, l'accueil, d'une certaine manière. On accueille beaucoup de gens qui, j'aime pas beaucoup le mot de migrants, beaucoup de gens qui arrivent en leur demandant de remplir des questionnaires. Eh bien, nous réfléchissons à faire un glossaire, nous faisons des glossaires de l'administration française. Et nous sommes en cela aidés, alors c'est à l'usage de ceux qui accueillent comme à l'usage de ceux qui sont accueillis. Je crois que la réciprocité là est très importante. Et d'une certaine manière, la mise en rapport des difficultés. Quand on est une malienne qui arrive et qu'on vous demande votre nom, ça pose déjà quelquefois un problème. Est-ce qu'on va donner celui de son mari, mais qu'on n'a pas le droit de porter parce que il est chasseur ou il est guerrier et qu'on n'a pas son nom, on peut pas le porter. Mais alors comment on va faire pour la sécu, etc. Donc nom, prénom. Cette séparation entre nom et prénom n'existe pas du tout. Ce sont des siècles d'administration française qui sont engrangés dans nos questionnaires. Et déjà faire percevoir cela, c'est extraordinaire, si vous voulez. Je me souviens d'une première rencontre à Aubervilliers, où autour de la table, il y avait tous ceux qui accueillent, et notamment les gens de l'état civil, qui se sont frappés le front en disant « Ah, ben on comprend pourquoi ils sont tous nés le 31 décembre ou le 1er janvier. »
Ah oui, les Soninkés, vous racontez
oui,
ça, oui.
Oui. Oui, et c'est magnifique.
Ils sont tous nés le même jour, à 24 heures près.
Il y a eu quelques problèmes de informatique, mais enfin, comment est-ce que vous traduisez l'année des sauterelles aussi? Enfin bon, je veux dire, il y a énormément de problèmes par rapport à la date de naissance. Et je suis très heureuse et très fière de dire que, chose à laquelle je ne me serais jamais attendue, nous sommes subventionnés par le ministère de l'Intérieur pour faire ce travail. Ça veut dire que les choses bougent dans les têtes.
Alors vous dites, pour vous en moquer, qu'on pourrait définir ces maisons de la sagesse en 9 langues, une langue qui permet d'avoir des subventions justement. Et vous dites, les maisons de la sagesse traduire sont un espace interdisciplinaire et multiculturel de dialogue et d'interaction propre à renforcer la cohésion sociale en valorisant de nouvelles pratiques de citoyenneté. Et de manière plus originale, elles créent des outils d'appropriation et de partage de la culture au quotidien. Elles expérimentent avec un public agissant des modalités peu prévisibles de partage et d'invention scientifique, culturelle et artistique.
Bah oui, donnez-nous de l'argent.
J'ai l'impression d'avoir déjà lu quelque part.
Vite. Vous pouvez pas refuser à ça.
Mais alors depuis quand est-ce qu'on traduit ? Vous dites que les Grecs n'avaient pas de verbe pour dire traduire parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas d'autre langue que la leur.
Je suis pas tout à fait comme ça. Il y a eu un certain nombre de verbes qui ont fini par dire traduire, mais le candidat le plus sûr en grec, c'est herméneuein. Vous voyez que ça a donné herméneutique. Donc c'est plutôt interprété. Et d'ailleurs, en arabe, le terme signifie aussi interprété. En chinois, c'est parmi les premières occurrences, on trouve retourner une soie brodée. Ben oui, le dessus n'est pas tout à fait comme le dessous, mais c'est quand même la même chose. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de manières de dire traduire et de beaucoup de pratiques de traduction, mais d'une certaine manière, le moment où elles ont vraiment été mises en lumière, c'est deux fois, quand le passage du grec au latin, bon, il y a eu des traductions, et puis avec la Bible, qui a aussitôt, quand on vous demande quelle est la langue originale de la Bible, eh bien, la réponse que vous allez faire est complexe. Vous pouvez dire c'est l'hébreu, c'est l'araméen. Et puis, si vous êtes catholique, vous dites peut-être que c'est la traduction, c'est-à-dire la traduction latine de Saint Jérôme qui fait foi. Bon, et donc là, c'est un moment d'immense traduction. Et la traduction de la Bible a été, et c'est ce qui a fabriqué les vernaculaires, c'est-à-dire les langues que nous parlons.
Est-ce qu'il faut, enfin, est-ce qu'on sait dater l'apparition des premiers dictionnaires d'une langue dans une autre? Est-ce qu'il faut du papier pour traduire?
Ah non.
Ou est-ce qu'on a traduit avant qu'il y ait du papier?
Non, il ne faut pas du papier pour traduire, pas plus qu'il faut du papier pour écrire déjà. Et on peut écrire sur autre chose que du papier, et puis on peut même écrire sur le sable, et puis on peut même se parler. Et se comprendre sans parler la même langue. Donc non, je pense que la traduction, d'une certaine manière, a toujours existé, mais ce qui se passe, moi je suis helléniste, et les Grecs ont un seul mot pour dire langue, langage et raison. Donc c'est logos.
Logos.
Et ce qui donnera le nom de Dieu. Dieu et logos. Bon. Donc... langue, langage et raison, ça veut dire que tout ça ne fait qu'un. Et en l'occurrence, ça ne fait qu'un avec la langue grecque. Donc, quand vous êtes non grec, d'ailleurs, les latins ont eu des traductions magnifiques pour logos. Ils ont dit ratio et oratio, raison et discours. Et ça, c'est le passage au latin. Vous voyez, une très très belle et très intelligente traduction qui, comme souvent, est un jeu de mots. Eh bien, donc, le grec a... laisse hors de lui tous ceux qui ne parlent pas grec, puisque, d'une certaine manière, ils n'ont ni langage, ni raison. Et ces gens-là, ils les appellent barbares. Et moi, je suis payée, si j'ose dire, ou pas payée, pour savoir ce que ça veut dire, puisque je m'appelle Barbara, ça veut dire blablabla. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce que l'autre est en train de dire.
Pour l'instant, on comprend.
Tant mieux.
Mais est-ce qu'on n'a pas gardé de cette conception des Grecs l'idée que traduire suppose d'être dans une position de surplomb? C'est-à-dire un peu au-dessus des deux langages qu'on essaie de mettre en correspondance, comme s'il y avait un logos, justement, qui plane au-dessus des deux. Est-ce qu'on peut se mettre dans les deux langues au même niveau?
Non, mais ça ne veut pas dire qu'il y en ait une qui est au-dessus de l'autre, ni qu'il y ait encore quelqu'un au-dessus. Ça, ce que vous racontez, c'est la Pentecôte. C'est-à-dire, c'est le contraire de Babel. Babel, tout le monde s'est mis à parler des langues différentes, peut-être qu'on en parlait avant, mais enfin, en l'occurrence, le châtiment ou la chance. Châtiment ou chance, c'est que les hommes se sont mis à parler plusieurs langues, si tant est, enfin, bon, là je ne vais pas rentrer dans les détails de la Bible qui peut-être dit que déjà on parlait plusieurs langues. Bon, ok. Avec Babel, on parle en tout cas plusieurs langues. Et comment est-ce que c'est rémunéré, si j'ose dire, Babel? Eh bien par la Pentecôte. Et par la Pentecôte, c'est quoi? Eh bien c'est non pas que les apôtres ou que les apôtres connaissent toutes les langues ou comprennent toutes les langues, non pas du tout. C'est que il y a des petites langues de feu qui se baladent. Les apôtres parlent leur langue, l'araméen, et ceux qui comprennent et qui sont d'un tas de nationalités différentes, d'un tas de langues différentes, comprennent tous. C'est-à-dire que ça arrive dans leur langue. Donc ça part d'une langue et ça arrive dans toutes les langues. Ben, c'est Dieu, les petites langues de feu, le Saint-Esprit, ce que vous voudrez, qui traduit. Donc le premier traducteur, c'est Dieu. C'est pour ça que vous me parlez de surplomb. Mais oui. on a changé tout ça.
On y reviendra parce que vous êtes en train de travailler à un dictionnaire des religions, en fait, qui essaie de dire les monothéismes dans différentes langues et d'essayer de voir comment on peut nommer Dieu. Mais je voudrais qu'on revienne à un épisode important de l'histoire récente, qui est la conférence de Bandung, qui s'est tenue en 1955, je crois.
Oui.
Qu'est-ce qui s'y est décidé? En quoi elle joue un rôle dans la façon que vous avez de concevoir ce projet de Maison de la Sagesse?
Eh bien, ça s'est passé hors de la zone d'influence des puissances, disons, on va dire coloniales ou des grandes puissances. Ça s'est passé entre les autres, entre les barbares pour les puissants. Et ce qui serait intéressant, c'est donc de fabriquer un bandung de la traduction, de réfléchir à partir d'ailleurs comment ça serait.
En l'occurrence, c'était en avril 1955 en Indonésie, et se sont réunis là pour la première fois les représentants de 29 pays africains et asiatiques, en dehors des deux grands blocs de l'époque.
C'est ça.
Et ils ont essayé d'échapper à toute influence qui viendrait
toute
de ces blocs.
Toute emprise,
oui.
Voilà. C'est une première conférence de déprise.
Alors aujourd'hui, il y a quand même une langue qui tend à s'imposer comme une langue presque universelle, que vous appelez dans votre livre une langue hypercentrale, en reprenant une citation de je ne sais plus qui. Qu'est-ce qui explique que l'anglais ait cette particularité de pouvoir, en apparence en tout cas, s'imposer, sinon de façon universelle, du moins de façon très générale, notamment dans les sciences?
Bon, d'abord, ce n'est pas sans lien avec la puissance américaine et avec ce qu'on peut appeler très brutalement le capitalisme. Je veux dire, lorsque notre président de la République, Emmanuel Macron, dit « Choose France », il parle anglais parce qu'il s'adresse aux investisseurs. Donc le lien est très net entre, disons, le commerce, l'argent, la domination économique et la domination linguistique. Ceci dit, il y a toujours eu des langues de travail, des langues de communication. Et il faut qu'il y en ait. Il faut bien qu'on communique. Simplement, le problème, c'est quand les langues de communication éradiquent les langues qu'on va dire de culture.
Prennent leur place.
Et c'est pourquoi, moi, je m'inquiète beaucoup de ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que Umberto Eco a une phrase absolument magnifique. Il dit « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Ça veut dire que la richesse de l'Europe, c'est sa diversité. Et c'est la traduction, c'est la manière, vous le disiez dans le titre même, de savoir faire avec les différences, avec la diversité. Donc, c'est ça qui est important et c'est ça qui est caractéristique de l'Europe, par différence avec un monde, on va dire, globalisé dans le pire sens du terme, qui aurait perdu beaucoup de ces intelligentes et de ces culturelles singularités.
Alors, vous avez aussi travaillé, et vous continuez d'ailleurs, Barbara Cassin, à travailler sur le concept d'intraduisible.
Oui.
Et ça semble contradictoire avec ce que vous dites là, à savoir que normalement, on peut justement jouer avec les différences, quelles qu'elles soient, par le travail de la traduction. Et la notion d'intraduisible, qui est essentielle pour vous, semble poser une limite à ce travail de traduction.
Non, je définis l'intraduisible non pas comme ce qu'on ne traduit pas, mais comme ce qu'on ne cesse pas de traduire. Donc c'est sans limite, justement. C'est-à-dire que c'est ce qui pose problème. C'est ce devant quoi vous avez à affronter quand vous êtes dans la diversité et dans la différence des langues. C'est des symptômes de différence des langues. C'est-à-dire aussi des symptômes de vision différente du monde, des symptômes de culture différente. Et ça, c'est passionnant. Parce que si vous croyez tout simplement que quand on parle globiche, on dit la même chose que quand on parle anglais, quand on parle un bon anglais, ou quand on parle français, allemand, italien, soninké, évidemment vous vous trompez. On ne dit pas la même chose. Ce qui est dit est aussi appauvri que, que le modèle que vous lisiez tout à l'heure en français, dans ma phrase pour obtenir de l'argent. Les dossiers qu'on fait pour l'Europe sont des dossiers anglobiches, même quand on est français. Et dans ces dossiers, il n'y a rien. C'est terrible. Il y a des work packages, il y a des state of art, il y a des deliverables.
Bon, okay. Non, n'en parlons pas.
Mais oui, tout le monde en souffre. Et ceux qui les lisent aussi. Et ceux qui les lisent en souffrent d'autant plus qu'ils les lisent dans une langue qui n'est pas la leur. C'est-à-dire que la langue, en fait, la langue de communication en Europe, c'est la langue des experts c'est la langue qui recouvre toutes les langues maternelles. Et la langue de l'expertise, c'est le globish, c'est-à-dire une langue atroce qui n'existe pas.
Mais pour, disons, illustrer ma question précédente, oui. Si je dis bonjour, je peux le traduire en anglais par hello.
Oui.
Quand je marche au Népal et que je croise quelqu'un, il me dit namasté. Oui. Et je crois que c'est bonjour.
Oui, oui, c'est ça.
Mais en fait, c'est pas bonjour. Donc en fait, je crois que c'est traduit, ça pose plus de problème. Et en réalité, il n'y a qu'un Français qui peut entendre ce que veut dire bonjour quand on lui dit bonjour.
Oui, ou good morning, on voit bien que ça marche à peu près ça. Mais je prends souvent l'exemple, bien sûr, c'est traduit. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, sauf que ça devient intéressant quand on se demande s'il y a vraiment la même chose, si on dit vraiment la même chose. Et bon, si je commence avec le grec ancien, quand on dit kairé, pour
c'est
saluer,
bonjour. C'est bonjour.
C'est bonjour, mais... je vous salue Marie, Kairé, ça veut dire jouis, réjouis-toi.
Ah oui, c'est mieux.
C'est mieux quand même. Et quand je suis latin, je vous dis valet, ça veut dire sois en bonne santé, porte-toi bien, sois costaud.
Par les temps qui courent, c'est encore mieux.
Voilà. Mais quand je vous dis salam ou shalom, je vous souhaite la paix. Je n'ai pas fait ça quand je vous dis bonjour.
Donc, en fait, dire intraduisible, ça veut dire que ce n'est pas figé, qu'il y a des différences qui sont cachées par l'usage et qu'il faut constamment les réinterroger.
Ça veut dire que c'est intéressant de s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait pareil. C'est plus intéressant et parfois c'est crucial. Je prends un exemple crucial, si vous voulez, à mon avis, pour la construction européenne. La différence entre dette, debitum, voilà, vous rendez, c'est fini, et dette en allemand, schuld. Ah! Là, c'est la culpabilité qui vous pèse sur les épaules. Vous pouvez toujours rendre, mais c'est vraiment, vous êtes coupable. Bon, là, vous commencez à comprendre un petit quelque chose des difficultés européennes concernant la dette.
D'accord. Alors, en plus de ces maisons de la sagesse qu'on vient d'évoquer, Barbara Gassin, vous parlez dans ce livre de ce que vous appelez des banques culturelles.
Oui.
Bon, ça m'a passionné, je ne savais pas que ça existait. Pour moi, c'est presque un oxymoron.
Oui, oui.
Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme ?
Oui, c'est banque culturelle, musée aux banques, on dit maintenant.
Musée aux banques.
Chez nous, en français, moi je trouve ça moins bien. Oui,
non,
je suis d'accord.
C'est moins bien.
Mais bon, l'idée dessous, c'est le deuxième dispositif que les maisons de la sagesse traduire essayent de mettre en place. Il s'agit de changer l'idée de banque et de changer l'idée de musée à partir d'un triptyque qui est objet, récit d'objet. Voilà ce qu'on va gager. Voilà ce qu'on va chercher dont on va chercher la valeur. Bon, objet, récit d'objet, projet, microcrédit ou nanocrédit tellement c'est petit. Donc, l'objet que nous allons gager, comme dans un crédit mutuel si vous voulez, c'est non pas un objet qui vaudra tant parce que ça pèse tant d'or et parce que c'est reconnu comme une antiquité qui, etc. Non, ça sera un objet et son récit. Le récit, la biographie de l'objet, dite par quelqu'un, dite par son propriétaire qui l'apporte, qui sera en même temps donc la biographie de la personne, et qui sera en même temps une coupe de la société, avec son histoire. Donc c'est cela qui sert de gage. Et vous voyez, ça change déjà l'idée de banque.
C'est-à-dire qu'il est découplé de l'idée de marché.
Absolument. Et en revanche, il est couplé à une idée de monstration et de partage. C'est-à-dire que cela, on va le montrer. Cet objet et ce récit d'objet, on va le montrer et comme dans un musée d'un autre genre, d'un musée vraiment participatif. Et puis, il est lié à un projet, on dit petite entreprise génératrice de revenus, mais ça peut être toutes sortes de projets. Hein. Il est lié à un projet qui va être micro-crédité, nano-crédité, si j'ose dire, grâce à l'objet mis en gage.
Et est-ce que ça fonctionne ?
Ça fonctionne en tout cas en Afrique. Et ça a fonctionné, par exemple, à Gao. Il y a des banques culturelles au Mali. Mais la chose, c'est qu'on essaye de se demander qu'est-ce que ça serait ici, maintenant, chez nous. Et ça, on essaye vraiment. de comprendre et d'adapter et de réfléchir à la bonne manière de faire. Et je vous invite le 4 novembre au campus Condorcet.
Qui regroupe les sciences humaines, enfin les laboratoires.
Voilà, c'est probablement le plus grand campus de sciences humaines d'Europe, et ça va le devenir en tout cas. Et là, on va présenter une journée sur les biographies d'objets autour de la mémoire. Et on va faire l'ébauche, l'embryon d'une banque culturelle.
Et ils seront conviés, alors qui les, les chercheurs, les étudiants?
Tous ceux, vous tous. Enfin, je ne sais pas s'il y aura la place. Mais on va montrer notamment des objets récits apportés par quelques personnes, 3 ou 4, parce que nous on n'a pas tellement l'argent pour donner des crédits, c'est encore compliqué. On aurait bien aimé que le Crédit Mutuel nous aide, par exemple. En l'occurrence, je le dis avec amour, c'est la Fondation Danone qui nous aide essentiellement. Mais voilà. Ça pourrait être d'autres fondations et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis j'espère aussi que ça va se stabiliser et que ça va trouver sa forme, disons, économique, c'est-à-dire muséo-économique.
Alors vous consacrez, Barbara Cassin, dans ce livre, une quatrième partie à ce que vous appelez les intraduisibles des 3 monothéismes. Est-ce que c'est la question religieuse qui empêche le plus le rapprochement entre les hommes?
Je me suis dit que de nos jours, c'était quand même
un
problème vraiment important. Et comme d'habitude, si vous voulez, je pense que les choses se résolvent quand on regarde les langues et les textes. Quand on passe, non pas par les actions violentes, etc., mais quand on se met ensemble à travailler. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on se met ensemble à travailler... païen, puisque moi je suis païenne si je suis quelque chose, chrétien, musulman, juif, et on travaille sur les textes en langue, et on réfléchit aux différences, par exemple, comment dit-on Dieu, comment dit-on l'autre, comment dit-on croire, et pourquoi vendredi, samedi, dimanche, essayons de comprendre, voilà. Et je dois dire que là, franchement, la pandémie nous a beaucoup arrêtés, car si nous ne sommes pas co-présents, il ne se passe pas grand-chose. C'est pas quelque chose qui peut se passer par...
En visioconférence.
Non, vraiment pas.
Mais est-ce que Dieu, par exemple, est-ce que le concept de Dieu existe indépendamment des textes religieux qu'il convoque? Est-ce qu'il y a un universel de Dieu qu'on pourrait décliner dans toutes les langues qui le disent?
Non, mais déjà, je me méfie beaucoup de la notion d'universel. Vous savez, le fait de faire un dictionnaire des intraduisibles, c'est justement un dictionnaire de mots et pas de concepts.
Il n'y a que des mots, il n'y a pas de langage en fait, langues.
Là, c'est une phrase de Humboldt que vous retrouvez. Je n'ai jamais rencontré le langage, mais j'ai vraiment rencontré les langues. Voilà. Ça, c'est une phrase de Humboldt, et j'y crois beaucoup. Vous voyez bien qu'elle fait pièce au grec logos. Il n'y a pas un universel comme ça, commun à tout. Oui, il y a des universaux. Oui, on a des manières de parler. Mais on parle tous. Mais est-ce que c'est un universel? Vous voyez, essayez de faire la différence en anglais, qui pourtant pour nous et pour nous philosophes français est fondamentale, la différence de Saussure entre langue, langage et parole, vous avez bien du mal. Donc, vous avez bien du mal dans la langue, ça marche pas, et c'est difficile, enfin il faut réinventer. Et au fond, c'est très intéressant de savoir quelles sont les discordances. Voilà, quelles sont les discordances, on travaille sur les discordances de manière à pouvoir commencer à s'entendre.
Mais ça demande de la part des religieux qui se prêtent à ce jeu, si j'ose dire, une certaine ouverture d'esprit.
Ils sont pas forcément religieux. On n'est pas forcément religieux parce qu'on lit la Bible.
Oui, mais on a certainement tendance à considérer qu'une langue qui dit Dieu est elle-même sacrée. Et donc elle a une sorte de priorité ou de suprématie sur les autres quand il s'agit de parler de ce Dieu-là.
En ce moment-là, il y en a beaucoup qui sont sacrés. Effectivement, c'est ce qu'on compare les sacralisations. Mais si vous prenez cela justement sur l'angle de la traduction, vous voyez que la Bible, au fond, elle n'existe qu'en traduction. Pas de texte original de la Bible. la Torah, elle est tout de suite dite en hébreu, en araméen, il y a des gloses, c'est immédiatement en plusieurs langues, et puis on la traduit, et la Septante se met à exister en grec, bon, et puis ensuite ça sera traduit par saint Jérôme en latin, etc. Et puis, si vous prenez le Coran, là c'est un peu différent, parce que, alors, je vais dire une phrase dont je ne suis pas sûre de comprendre toute la portée. Mais je crois qu'on ne traduit pas le Coran, on traduit le sens du Coran. Le Coran a été révélé en arabe. La langue de révélation, c'est l'arabe.
Il ne se dit qu'en arabe.
Et il ne se dit pour une fonction religieuse. Bon, il se dit en arabe, parce que c'est ainsi qu'il a été révélé. Je ne suis pas sûre que vous puissiez dire de la même manière que la Torah a été révélée en hébreu. Et je ne suis pas sûre, et je suis sûre que vous ne pouvez pas dire de la même manière, que la Bible a été révélée en latin. Bon, donc vous voyez, déjà, le rapport à la traduction est un rapport sur lequel, d'ailleurs, dans ce dictionnaire des intraduisibles des trois monothéismes, nous allons nous arrêter. Quel est le rapport entre le texte sacré, dit sacré, et sa langue ? Et quel est son rapport à la traduction ? Déjà, se poser ces questions, si vous voulez, ça fait faire un bond en arrière, si j'ose dire, qui est un bond en avant.
Pourquoi est-ce que vous avez mis en exergue de ce chapitre ce tag qu'on trouvait sur les murs de la Sorbonne en 1968 « Dieu est mort, signé Nietzsche, Nietzsche est mort, signé Dieu
». Parce que je suis païenne.
Mais les deux sont vrais.
Oui.
Alors, est-ce que l'idée que Dieu a une main existe dans toutes les langues, la main de Dieu ?
J'en sais rien.
Vous savez pas ?
Non, je ne sais pas.
C'est pas celle de Maradona, je parle de... Quand on dit que la main de Dieu agit quelque part, on prête à Dieu un attribut corporel tous les langages ne lui attribuent pas, sans doute.
Je ne sais pas, mais là vous posez une question très intéressante que je ne suis pas à même de résoudre, mais j'aimerais bien qu'elle soit traitée dans le dictionnaire, dans les intraduisibles des trois monothéismes.
Vous donnez aussi l'exemple d'un ce que vous appelez un modèle d'ambiguïté, la traduction qu'on trouve parfois sous cette forme de cette phrase qui dit « Je suis celui qui suis ».
Oui.
Et vous dites qu'en fait il y a pas mille, mais beaucoup d'autres manières de traduire cette phrase,
oui.
Et ça en change complètement le sens.
Oui. Et d'ailleurs, les traductions qui existent sont très différentes, parce que qui ou que, qui suis ou qui est. Bon, il y a beaucoup de... quel sens, quel est le temps exact du verbe ? Est-ce qu'on peut parler de temps, d'ailleurs ? Enfin, vous voyez...
Je suis des temps, je suis qui je suis, je serai qui je serai.
Oui.
Je suis qui je serai, je suis, etc. Je serai ce que je me ferai devenir.
Oui, ce sont des traductions qui existent et qui sont très intéressantes parce qu'elles disent, elles dévoilent un bout des problèmes de la phrase.
Vous dites aussi qu'un traducteur ne peut être personne. Un traducteur, c'est toujours quelqu'un qui est inséré dans un réseau de langues. Et vous ne croyez donc pas, j'imagine, à la traduction automatique.
Ah, c'est pas du tout...
C'est pas ça que vous voulez dire ? C'est ce que j'avais compris. Et pourtant, si votre travail aboutit, ça veut dire qu'on aura examiné toutes ces différences, il y aura beaucoup de données grâce auxquelles les logiciels de traduction automatique pourront s'éduquer et peut-être mieux traduire, et de sorte que la traduction automatique aura presque la qualité, et on dit que c'est déjà vrai dans le domaine de la traduction scientifique, que les travaux des traducteurs professionnels.
Écoutez, moi d'abord, quand j'ai essayé de faire le dictionnaire des intraduisibles, je l'ai appelé vocabulaire européen des philosophies, pour que l'Europe, je vais vous parler gros sous, pour que l'Europe me subventionne. Subventionne l'éditeur.
Décidément.
Oui, mais oui. Et l'Europe m'a répondu, nous ne subventionnons que la traduction assistée par ordinateur. À l'époque, c'est-à-dire...
Avec quel argument ?
Non, c'est tout, c'est comme ça. On met l'argent là-dessus, parce que c'est l'avenir, je suppose. Et ils ont raison, c'est l'avenir. Ça ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas subventionner le dictionnaire des intraduisibles. Mais ça voulait dire que c'est intéressant, la traduction automatique, et je suis parfaitement d'accord. En ce moment, je suis en train de réfléchir avec beaucoup de... pas toute seule, évidemment, avec des gens plus compétents que moi, dans divers domaines, à un projet qu'on pourrait appeler projet ECO, E-C-O, qui serait un projet qui, justement, nourrirait autrement la traduction automatique et nourrirait d'intraduisibles, c'est-à-dire de choses qu'on traduit en ayant conscience des difficultés, la traduction dite automatique, la traduction dite neuronale plutôt aujourd'hui. Donc voilà, je suis au contraire tout à fait passionnée par le rapport évolutif à la traduction. Mais si vous voulez, au début, quand j'ai fait un livre sur Google, j'ai donné à traduire cette phrase de la Bible « Et Dieu créa l'homme à son image ». On l'a traduit en allemand par Google, puis la phrase allemande, je l'ai fait traduire en français par Google, puis je l'ai fait traduire à nouveau en allemand par Google, et puis à nouveau en français, la traduction s'est stabilisée, elle ne changeait plus, et ça donnait « Et l'homme créa Dieu à son image ». Je trouve ça génial.
Ça s'est inversé.
Ça s'est inversé. Et c'est normal, puisque la syntaxe est très mal prise en compte. Donc la syntaxe, l'équivoque, même si il y a d'énormes recherches autour de justement de ce qu'il y a autour d'un mot, autour des contextes. Bon, c'est très difficile à prendre en compte pour l'instant encore, et encore sans doute pour longtemps avant que ça soit.
Mais ça progresse quand même très vite.
Mais ça progresse.
Il y a quelques années, j'avais lu un livre de physique traduit de l'américain en français. Il était question de demi-chef d'orchestre. Oui. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il s'agissait d'un semi-conducteur.
Ben voilà.
Semi-conducteur.
Ouais, oui.
Mais aujourd'hui, je pense que ces erreurs n'existent plus.
Pas celle-là, mais il y en a d'autres. Celles que vous n'avez pas encore repérées. Toutes celles que vous n'avez pas encore repérées et contre lesquelles vous n'avez pas protesté dans un article sont encore là. Moi, je me souviens, dans l'exposition que j'ai faite après Babel traduire au MUCEM, j'avais fait traduire...
À Marseille.
J'avais mis toutes les traductions du Corbeau d'Edgar Poe. Donc il y a une traduction de Baudelaire, il y a une traduction de Mallarmé, il y a énormément de traductions, et j'avais mis la traduction de Google. Et là, il y avait, la volaille perchée sur la porte. Bon, c'était génial. C'est très intéressant. Maintenant, la traduction est parfaite.
Barbara Cassin, je voudrais vous faire réagir à trois anagrammes incroyables qui ont été trouvés par Olivier Garcia. La première, c'est l'anagramme de « une œuvre traduite ». Ça donne « une vérité au détour ». Ça vous inspire ? Une vérité au détour. Est-ce qu'il y a des vérités qui surgissent grâce à la traduction ?
Sûrement. Surtout que j'aime bien, c'est « une vérité » avec un petit « v ». Donc ça, me plaît beaucoup. Vérité au détour. Oui, heureusement qu'il y a une.
Oui. Bon.
Donc, une vérité au détour, mais oui, bien sûr. C'est ça, savoir faire avec les différences.
Il y en a une qui va sûrement vous plaire, c'est traduire une œuvre qui donne réitérer du nouveau.
Magnifique, oui.
C'est presque réitérer du nouveau, c'est presque un pléonasme d'ailleurs. En tout cas, il y a une sorte de redondance, il y a une sorte de répétition créatrice.
C'est une contradiction aussi,
oui, c'est
donc c'est magnifique.
Oui.
C'est qu'on dépasse la contradiction.
Et la troisième, c'est l'anagramme d'une belle traduction qui est un réel double intact.
Magnifique aussi. Un réel double intact. Oui, Borges aurait pu signer.
Voilà. Elles ont été trouvées par Olivier Garcia qui me les a envoyées. Je le remercie pour cela. Est-ce que la langue des signes, elle change de sujet, la langue des signes, celle qui sert aux aveugles, est traduisible? Et je crois savoir qu'il y a plusieurs langues des signes différentes et qu'il existe, ça m'a complètement impressionné, des moyens de les traduire. Il y a une traduction d'une langue des signes particulière dans d'autres langues des signes.
Toutes les langues peuvent se traduire. Donc, et les langues des signes sont elles-mêmes des langues. Donc, quelqu'un qui connaîtrait la langue des signes anglaise et la langue des signes indienne pourrait les traduire l'une dans l'autre, bien sûr. Il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas. Et il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas en même temps des intraduisibles dedans, c'est-à-dire des bouts qui seront plus intéressants quand on comprend que ça ne va pas tout à fait. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de films, et un film notamment magnifique qui avait été fait par Nourrit Aviv, dans l'exposition après Babel, où on voyait le même mot dans différentes langues des signes. Et moi, j'en retiendrai toujours, si vous voulez, que par exemple, culture, en langue des signes française, c'est quelque chose qui s'échappe de la tête, un peu qui, ça fulgure de la tête. Culture, en américain, ça entoure le doigt, et ça le protège, hein, le doigt dressé. Et puis... culture en japonais, et ben ça s'emboîte dans les deux sens. On fait emboîter les mains comme ça dans un sens et puis dans l'autre. Mais je trouve que là, on a à la fois, vous voyez, du traduisible et de l'intraduisible. Et je vois bien un japonais qui pourrait traduire culture depuis les trucs qui partiraient de la tête en se croisant les doigts, en croisant ses mains. Voilà. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se traduise pas. Toute langue est traductible, tout mot, si vous voulez. Ou plutôt, je dirais, tout est traductible sans m'arrêter à l'unité, parce que je ne sais pas si c'est le mot, la phrase, la pensée, enfin bon, c'est très compliqué.
Mais j'ai envie de déduire de ce que vous dites, Barbara Cassin, que en fait, le langage, la langue maternelle par exemple, détermine secrètement un rapport au monde, presque une façon de penser.
Mais absolument.
Et donc, est-ce qu'on peut penser en plusieurs langues? Quelqu'un, quand on pense, quelqu'un qui est polyglotte, est-ce qu'il pense toujours dans une certaine langue qui est peut-être sa première langue, ou est-ce qu'il arrive à circuler dans les langues différentes pour avoir une pensée peut-être plus compliquée?
Ben, écoutez, il y a pas mal de gens qui... J'ai posé cette question à un certain nombre de gens. Quelle est ta langue maternelle? Et un certain nombre m'ont répondu, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Par exemple, Souleymane Bachir Diagne, qui nous a beaucoup aidés autour des Maisons de la Sagesse, entre autres, et qui travaille beaucoup sur la traduction, dit qu'il n'est pas sûr de savoir quelle est sa langue maternelle. Et il y a un certain nombre de gens en Afrique ou en Haïti, par exemple, qui ne savent pas avec certitude s'ils ont une langue maternelle. Elle peut être plusieurs. Et alors ensuite, la question suivante, c'est « Et alors quand est-ce que vous parlez l'une et quand est-ce que vous parlez l'autre ?» Ou bien quand est-ce que vous changez de code? Ça s'appelle, en français, l'alternance codique. Moi, j'avais aussi fait un petit film là-dessus, enfin, fait faire...
L'alternance codique.
Oui, code switching, l'alternance codique. J'avais fait faire un petit film aussi là-dessus pour l'exposition Après Babel Traduire, et c'était absolument magnifique. Il y avait, par exemple, deux jeunes filles arabes, assises sur le bord du port à Marseille, qui parlaient arabe et qui se faisaient des confidences amoureuses, et tout d'un coup, l'une d'entre elles disait « Et il était beau !» Et puis ça continue en arabe. « Et on a galéré !» Ça continue en arabe. Bon, à quel moment fallait-il qu'elle fasse appel aux Français? C'est très intéressant. Je ne peux pas vous répondre comme ça, mais on voit bien que c'est un sujet.
Il y a des langues qui servent à dire certaines choses et d'autres qui disent d'autres choses.
Oui.
Mais il y a quand même une langue qu'on parle à ses enfants, par exemple.
Bah, peut-être plusieurs aussi. Ça peut arriver. Si, je pense que si, par exemple, Souleymane Bachir Diagne ne sait pas vraiment, avec certitude, quelle est sa langue maternelle, c'est qu'on lui en a parlé plusieurs dans son enfance et probablement sa mère aussi.
Alors, il y a des erreurs de traduction, des problèmes de traduction qui ont des effets terribles. Par exemple, quand on dit que Ève a été tirée de la côte d'Adam, on dit certaines choses, et quand on dit que... par une autre traduction, que Ève a été tirée à côté, enfin je veux dire...
Elle est
née à côté d'Adam, on dit tout à fait autre chose. Mmh. Est-ce qu'il y a moyen de faire marche arrière? C'est-à-dire de reprendre cette autre traduction, Ève est née à côté d'Adam, et de supprimer tous les effets induits par la première traduction?
Non, vous ne les supprimerez pas, vous ne revenez pas dans le passé, mais quand vous voyez la main de Dieu de Rodin, vous voyez bien que ils se réveillent côte à côte. Bon. Et donc, à côté d'eux.
Adam et Ève.
Oui, Adam et Ève. Côte à côte, ou à côté d'eux, ou bien tiré de la côte d'eux. Bon. Il se trouve que l'ambiguïté marche encore en français. Mais voilà. Je ne crois pas qu'il faille rétro-pédaler, ou je ne crois pas qu'il faille déboulonner les statues de Colbert. Je pense qu'il faut se demander où est-ce qu'on en est? Et je pense, j'ai toujours pensé que la seule chose à faire, c'était de promouvoir l'esprit critique. C'est-à-dire, que pensez-vous de ce que vous voyez? Que pensez-vous de ce que vous entendez? Et là, j'ai pour moi une anecdote, enfin c'est pas une anecdote, c'est beaucoup plus que ça, un paradigme qui est que quand j'étais en Afrique du Sud et que Mandela est arrivé au pouvoir, il a fait mettre au milieu d'un musée atroce, qui était vraiment visiblement un musée à la fois poussiéreux mais scandaleusement apartheidique, eh bien il a fait mettre juste un petit écriteau avec « Que pensez-vous de ce que vous voyez ?»
Magnifique.
Magnifique.
Et une autre conclusion à laquelle on aurait pu aboutir si on avait plus de temps, c'est que, comme vous le dites à la fin de votre livre, traduire, c'est un geste politique.
Ah oui.
Qui devient certainement très urgent, très prioritaire.
Très.
Merci Barbara Cassin d'être venue à Science en Question ou Question Science, j'ai toujours pas compris le nom de l'émission. C'est Science en Question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jean-Guilain Meige et à la relation Marie Placé, avec qui j'ai eu le plaisir de faire la paire, une paire calme. D'ailleurs, c'est son anagramme.